étions arrivés donc dans cette question sur la physique, sur cette réflexion d'Aristote. Maintenant, jusqu'à quel point le physicien doit-il connaître de science la forme eidétique et le ce que c'est ? To eida, c'est le to ti esti. Doit connaître de science, c'est-à-dire doit savoir, tout simplement. C'est le eidenai, connaissance philosophique. Ou bien, n'est-ce pas comme le médecin apprend à connaître le nerf et le forgeron, l'airain, jusqu'au point qui lui est utile. Donc la connaissance du médecin par rapport au nerf et le forgeron par rapport à l'étain. Vous ne demandez pas au forgeron d'avoir une connaissance chimique de l'étain. Vous ne demandez pas au médecin d'avoir une science nécessairement biologique. Chacune de ces réalités, en effet, ils la connaissent en vue de quelque chose. Donc, on connaît en vue de Tinos, Eneka et Caston. Chacun est connu en vue d'eux. Et la science du physicien concerne ces réalités qui existent, d'une part, séparées selon la forme eidétique, et d'autre part, dans la matière. Car ce qui engendre un homme, c'est un homme et le soleil. Comment d'autre part, il en va pour ce qui est séparé, et ce que c'est discerner est le travail de la philosophie première. Comment Eiken to koriston kai esti philosophia philosophias ten proten diorisai ergon. Donc l'œuvre plutôt que le travail, je me mettrai ergon, c'est pas le travail, c'est l'œuvre, on comprend mieux. Discerner est l'œuvre de la philosophie première. Alors voyez, ça c'est très intéressant, parce que il a montré comment la philosophie première, la philosophie de la nature, atteignait la nature matière. Et que d'une certaine manière, seule la philosophie de la nature atteint la matière. La revendication extrêmement nette que la matière ne peut pas être connue par le mathématicien. Ça va très loin. Donc toutes les sciences inféodées aux mathématiques ne connaissent pas la matière. Au sens rigoureux, la science physique ne devrait pas parler de matière. Seule la philosophie de la nature peut parler de matière. Ça va très loin, ça. Tandis que lorsqu'il s'agit de la forme, c'est l'inverse. Seule la philosophie première peut parler du tiesti de la forme. Et la philosophie de la nature ne peut pas parler vraiment de la forme. Elle parle de la nature-forme, donc du composé. Et comme c'est intéressant, comme situation exacte de la philosophie de la nature par rapport à la nature-matière, la nature-forme. Au fond, c'est la nature-matière. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, on devrait appeler la philosophie de la matière. Ça irait mieux, on verrait mieux. Là, j'espère que vous voyez. Petite remarque, pas plus, simplement ça. Que le séparé, le point de vue séparé, regarde le point de vue de la philosophie première. Pos dekaito koriston kai tiesti. Donc ce que c'est que la forme, et la forme séparée, ça regarde la philosophie première. C'est l'œuvre de la philosophie première. Chapitre 3. Ces points déterminés. Donc on a clarifié le problème. On a montré exactement la situation des mathématiques par rapport à la philosophie première. Tout ce qui dépendait des mathématiques par rapport à la philosophie de la nature, je veux dire. Et puis, la situation de la philosophie de la nature par rapport à la philosophie première. Ces points déterminés, il nous faut faire porter notre examen sur les causes. Quelles elles sont et quel en est le nombre? C'est Fred Curieux, vous voyez. C'est un peu un regard critique, ici. Ce n'est plus au sens strict de la philosophie de la nature. On a délimité le sujet exact et ce que la philosophie de la nature regardait. Maintenant, on va regarder le point de vue des causes. En effet, puisque notre labeur se déploie en faveur du savoir de la science, puisque notre savoir, notre connaissance est en vue du savoir de science, en vue, oui, en effet, puisque notre labeur se déploie en faveur du savoir de science, de la science, et que nous ne croyons connaître aucune réalité particulière avant que nous tenions concernant chacune ce sous la vertu de quoi elle est, c'est-à-dire avant d'en tenir la cause première, le diati, peri ikaston, le taux diati. Alors le taux diati, c'est pas commun de traduire le taux diati, peri ikaston, le taux diati, hein. Ce que c'est que le taux diati. Péri et Castone. Le péri et Castone au sujet de chacun. C'est ce que les scolastiques appellera la materia circa quam. Vous voyez, le circa, c'est le péri. Alors la materia circa quam, c'est le péri et Castone au sujet de chaque chose. On va étudier le taux diati. Le taux diati. Difficile à traduire. Tenons ce concernant chacun. Ce sous la vertu de quoi? Le diati. Je vous laisse chercher. Ceci est, c'est-à-dire, tenir la cause première. Ceci est le taux labein ten proten asian. Alors le ten proten asian, vous voyez bien, c'est pas la cause finale. C'est au contraire la cause propre. Alors c'est ça qui est terrible dans le langage. Hein. La cause première, on dira, mais oui, c'est la cause première. Pas du tout. C'est la cause immédiate. Vous savez, comme les trappistes, le père immédiat. C'est le taux protéine, Nassia. C'est l'aspect religieux qui garde les traditions. Alors c'est le père immédiat. Le père immédiat, c'est celui qui dépend immédiatement. Donc c'est la cause qu'on trouve. Alors le diati. Le dia. Très difficile à traduire. Le dia. Pour le père Feuillet, quand il s'agit pour Saint Jean. Je ne sais pas, c'est la même chose pour Aristote. Le dia n'exprime pas seulement la cause efficiente, ça exprime aussi la cause finale. Le dia.
Donc Paul l'a Lacos Legetai.
Le quoi?
Serait Paul Lacos Legetai?
Ah non, 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 pas du tout.
Si le diable veut dire toutes les causes.
Mais non, c'est pas toutes les causes.
Bah, au moins la cause efficiente.
Ben oui, mais c'est deux causes. C'est pas du tout la cause matérielle. Le dia, ce par quoi? Le ce par quoi? Ce pourquoi? Alors, ce sous la vertu de quoi? Sous la vertu de quoi? C'est uniquement la cause efficiente. Et je crois que le dia est plus. Ça, je le laisse, hein. Vous traduirez le dia. Le diati, c'est important. Puisqu'Aristote caractérise ici la recherche philosophique par le diati. Hein, c'est ça qui caractérise.
Par la recherche des causes.
Et oui, la recherche des causes, mais quelle est la première cause que nous découvrons en philosophie de la nature? Quel est le diati? Le ten protenasian. Tandis que vous, vous mettez tout dans le polakos, les guetailles. Venez, faisons attention. Il est manifeste que c'est aussi ce qu'il nous faut faire concernant la génération et la corruption. Donc, Périécastone, et le Périécastone regarde aussi la génération et la corruption. Et tout changement physique. Afin que, connaissant leurs principes, nous nous efforcions d'élever jusqu'à eux chacune de nos recherches. Eh bien, donc vous voyez bien, c'est le diati. Voilà ce que c'est que le point de vue de la philosophie. C'est rechercher le diati, ce par quoi. Oui, je crois qu'on peut traduire ce par quoi. Ce pourquoi. Ce par quoi se fait cette réalité. Ce pourquoi. Le dia. Le dia grec est très difficile à traduire, hein. Afin que, connaissant leurs principes, nous nous efforcions d'élever jusqu'à eux chacune de nos recherches. Donc toutes nos recherches, c'est très intéressant. Tant qu'on n'a pas atteint ça, la recherche philosophique n'est pas faite. Le diati. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que ça montre que la cause matérielle ne suffit pas pour Aristote, hein. La philosophie de la nature atteint la cause matérielle, mais ce n'est pas la cause ultime de la philosophie de la nature. C'est le diati. Alors c'est peut-être ça, vous voyez, qui fera comprendre pourquoi Aristote, recherchant la cause propre de la génération et de la corruption, on devra aller jusqu'à la cause première. À cause du diati. C'est pour ça que c'est important. Rechercher comment traduire le diati. Je dis tout simplement ce pourquoi, ce par quoi et ce pourquoi. Il y a peut-être autre chose à dire. Est-ce qu'on trouverait un mot unique? Eh bien, d'une certaine manière, il dit cause. Alors là, on voit l'énumération des diverses causes. Donc c'est un lieu très important. Relever, ça vaut la peine, tous les lieux où Aristote énumère les diverses causes et regardez chaque fois qu'il les énumère différemment. Je crois que c'est la seule manière d'analyser vraiment les différents livres d'Aristote. Eh bien, d'une certaine manière, il dit cause, ce à partir de quoi advient tout en se trouvant toujours en elle, quelque réalité. Donc, quelque manière, advient, en se trouvant toujours en elle, quelque réalité. Je prends Ena, Un, Proton, Aision, donc la première, Legetai, To, Ex, U. Le grec est terrible parce qu'il est d'une brièveté extraordinaire. Le Ex, U. Le To, Ginetai, Ex, U. Ce par quoi est engendré. Ti, Enu, par Kontos. Ti, le Ti. Donc le quelque chose, Enu par Kontos, alors tout en se trouvant toujours en elle-même, Enu par Kontos, quelque réalité. Hein, c'est très difficile à traduire. Le ti Enu par Kontos, d'où est engendré, d'où est né, le ti Enu par Kontos. Le quelque chose qui demeure en lui, existant en lui. L'exemple, par exemple, l'airain de la statue, de l'argent, de la coupe, et aussi les gens de ceci, ex ou de cela, à partir de quoi ? D'une autre manière, c'est la forme. Donc, le ex-sous exprime à partir de quoi ? Oui, il nomme pas la matière. Il dit ex-sous. À partir de quoi ? Le ti est nu par kontos. À partir de quoi ? Quelque chose est existant en lui-même. C'est peut-être ça qu'il faudrait dire. Existant en lui-même. L'immanence. La matière, c'est ce qui vous colle toujours. On ne la quitte pas. C'est ça le problème de la matière. Oui, l'immanence. Ce qui demeure toujours. Le ti, qui, le quelque chose qui demeure tout le temps. En lequel on est engendré. D'autre part, d'une autre manière, c'est la forme. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Hein. Alon to eidos. C'est la forme et le paradigme, c'est-à-dire la notion expressive qui est celle de l'être qui, d'un être, demeure tel être et les gens de celui-ci. Heidegger. Hein. Ainsi, par exemple, les notes qui caractérisent deux relativement à un constituent le paradigme de l'octave. Hein, vous avez tous compris. Donc, le paradigme, voyez le grec, parce que c'est le grec qui est plus clair. Allon des ton eidos, donc d'une autre manière, l'eidos, et le paradigma, le paradigme. Paradigme, c'est l'exemplaire, c'est la cause exemplaire. Donc, ce qui éclaire tout le reste. Alors, pour le paradigme, tuto esti o logos. Ceci, c'est le logos. Et le tuti en einain, kai ta tutu gene. Donc le tutu gene, le genre du tutu. Le gene, le genre de celui-ci. Vous voyez comme c'est extraordinaire, hein, le paradigme. Ceci, c'est le logos. Bon, ça, c'est le plus clair. C'est le de l'acuité, c'est le genre de ceci, Alors on voit très bien les trois degrés qu'Aristote donne du paradigme. Le paradigme, c'est l'intelligibilité donnée dans le logos. C'est l'intelligibilité donnée dans l'acuité. C'est l'intelligibilité donnée dans le genre. Alors ça me semble extrêmement intéressant. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le paradigme? Le paradigme, c'est l'intelligibilité à l'état pur. L'intelligibilité à l'état pur, puisque la cause exemplaire, c'est une cause en soi de pure intelligibilité, puisqu'elle est gardée toujours dans l'intelligence. Le paradigme, il est gardé dans l'intelligence de celui qui compose, de celui qui fait, de l'artiste. Seul l'artiste sait ce que c'est que le paradigme. Dès que vous êtes celui qui vient après, vous ne savez plus. Hein. Donc le paradigme, c'est ce qui est possédé dans l'inspiration de l'artiste. Qu'est-ce que c'est? C'est le logos, traduisez ratio, c'est le quidité, c'est le genre. Comme Aristote donne les trois degrés d'intelligibilité. Vous retrouvez ça dans saint Thomas, ratio, quidité et genre. Genre, on est devant l'univoque, la quidité aussi, et ici l'analogie. La ratio. Ratio, quidité, genus. Voilà ce que c'est que le paradis. Comme c'est astucieux. Hein. C'est ce que saint Thomas reprendra exactement dans le De Trinitate et de Boas. Les trois niveaux de l'appréhension. L'appréhension saisit la ratio, ratio actus. L'acuité, la définition, et le genre. Vous voyez, l'appréhension, quand elle est parfaitement elle-même, c'est l'appréhension de l'artiste. Puisque chez l'artiste, l'appréhension, le jugement rejoint l'appréhension. Le jugement est dans l'appréhension. C'est ça l'intuition de l'artiste. C'est ça l'idée. L'idée, c'est le jugement qui se fait à l'intérieur de l'appréhension. Et là, vous avez les trois niveaux. Vous savez, ça c'est très génial, hein. C'est extraordinaire de voir ça. Alors c'est pas commode à traduire, hein. Il faut d'abord comprendre, puis après on traduit. Oui, c'est toujours ce qu'il faut faire. Parce que... Donc vous avez l'autre qui est l'aïdos, ou la cause exemplaire, le paradigme. L'aïdos, la cause exemplaire. Ceci, c'est le logos, donc la ratio. Ceci, c'est l'acuité, c'est le genre. Ainsi, par exemple, deux relativement à un de l'octave. Alors vous voyez, il prend un exemple dans la musique. Pourquoi? Parce que vous êtes en face de la cause exemplaire. Une mesure. La cause, de plus, se prend comme ce d'où provient le premier commencement. Donc, c'est l'arché. C'est l'arché auten. Tes metaboles. Donc, c'est ce d'où provient le premier commencement du changement. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez là le proté qui revient. Donc, c'est bien ce qui permet de dire que tout à l'heure, le proté, c'est d'ordre génétique. Mais ce n'est pas du tout dans l'ultime. de plus se prend comme ceux d'où provient le premier commencement du changement ou du repos. C'est ainsi, par exemple, que sont causes d'un choix ce qui décide du Fils, le Père, et de la manière générale de ce qui est fait, celui qui fait, et de ce qui subit un changement, oui, celui qui fait et de ce qui subit un changement, celui qui produit ce changement. Donc ici on exprime ce à partir de quoi le changement, c'est-à-dire la cause efficiente. Et ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que les causalités ne sont pas exprimées. Donc, vous êtes là en face de la première découverte des causalités. Et c'est toujours à partir de la philosophie de la nature que nous découvrons les premières causalités. Du moins, nous découvrons ce qu'est la diversité des causalités. Et en philosophie pratique, on ne découvre pas encore à l'état pur les causalités, puisque ce n'est pas spéculatif. C'est pour ça qu'Aristote insiste là-dessus ici. De plus, encore, la cause se prend comme la fin. Eti os totelos. Alors voyez, hein, os, comme. Donc on ne découvre pas la fin à l'état pur au niveau de la philosophie de la nature. Mais os totelos, comme. Il ne dit pas ça pour la forme. Il dit toidos, il ne dit pas os toidos. Il ne dit pas os toparagdeima. Mais il dit os totelos. Ce qui montre bien qu'en philosophie de la nature, on ne découvre pas vraiment la fin. Mais comme la fin. Et alors, comme la fin, c'est le tuto esti to ou eneka. Le ou eneka. Ce en vue de quoi? Ainsi, par exemple, la santé est la fin en vue de laquelle le péripatéticien a l'habitude, comme son nom l'indique, de se promener. Ça, c'est la glose. Hein. Ainsi, par exemple, la santé. Donc, ainsi, par exemple, et Ugyeya. La santé, si vous vous promenez, c'est pour acquérir la santé. Alors ça, c'est intéressant. C'est très important de se le rappeler. Hein. Si vous n'avez pas la santé, si vous ne dormez pas, promenez-vous. C'est ça qui permet d'avoir la santé. Or, la santé, vous savez bien, en premier lieu, c'est le sommeil. C'est ça qui nous refait le plus. Quand on commence à ne plus dormir, attention. Et alors, se promener. Et les péripatéticiens, alors la glose marginale, les péripatéticiens sont ceux qui se promènent parce qu'ils veulent garder une bonne santé philosophique. En vue de quoi, en effet, se promène-t-il? Vous vous promenez, non pas pour la conversation avec l'autre, mais pour pouvoir dormir. Dites-vous bien ça, hein, de la charité fraternelle. Enfin, déclarons-nous d'être en bonne santé, et se disant, nous pensons bien avoir donné la cause. To aision. Ce en vue de quoi? Et bien entendu, sont aussi causes de cette façon toutes les réalités qui, quelque autre réalité, effectuant le mouvement, adviennent comme approche intermédiaire de la fin. Par exemple, sont approche intermédiaire de la santé, l'amaigrissement, la purification, les remèdes ou les instruments. Alors jusqu'où vont ces remèdes et ces instruments? La question qui se pose aujourd'hui. Toutes ces choses, en effet, sont en vue de la fin qu'elles constituent. et elles diffèrent les unes des autres comme étant les unes des œuvres, les autres des instruments. Alors là aussi, c'est très important. Voyez la différence entre les ta erga et les ta organa. Il y a des fins intermédiaires qui sont les œuvres. Il y a des fins intermédiaires qui sont les instruments. Mais ils sont intermédiaires de façon tout à fait différente. Voilà donc, d'une part, en à peu près combien de façons se disent les causes. Vous voyez, c'est pas rigoureux. Hein. Ta men un aisia skedon to sotakos legetai. Ah, voyez le legetai to sotakos. Hein? Voilà ce que vous devriez dire. Les décailles, tosotakos. C'est plus modéré. C'est dit de combien de façons se disent les causes. Eh bien, d'autre part, il se produit aussi, donc, je m'arrête un instant ici, hein. C'est intéressant à bien voir ça. Nous sommes dans une perspective critique. Que représente le diati ? Le diati se présente à nous de quatre manières. Le diati. Vous avez le diati qui est tout simplement le to ex u. Toujours revenir à ça. Hein. Donc le diati, vous avez le to. Puisque c'est le point de vue premier, ex u. Voyez comment se découvre la matière. Ex. Et la matière se découvre toujours dans l'immanence. Il faut avoir les mains sales pour découvrir la matière. Le ex. Et alors il faut ajouter toujours le to exo guidetail. Je crois que c'est important. Le taux qui détaille ex. Le fait d'être engendré à partir de cela. À partir de là. Vous voyez, taux anthropo einein. Ou bien le taux ti einein. Ça va toujours le même procédé. Hein. Le fait d'être engendré. Le fait d'être engendré, exou. C'est dans le fait d'être engendré que vous découvrez le exou. Vous ne pouvez pas le séparer. Et je crois que ça nous aide à comprendre justement le ti enuparkontos. Vous avez ensuite le to eidos. Et à côté du to eidos, vous avez le to, sur lequel Aristote insiste le plus, le to, le paradigma, le paradigma. Le paradigme. C'est curieux que c'est mis ensemble. Du côté de la philosophie de la nature, c'est mis ensemble. Je ne peux pas les séparer. Puis alors, ensuite, vous avez l'arché, l'arché pes, métabolé, boles, et ensuite le os. Tô telos. dans le to, to telos, c'est ceci est to. Le to ou eneka. Je crois qu'il faut toujours respecter ça. Vous voyez que le to eneka, on ne met plus os. On met os pour la fin. Autrement dit, le en vue de quoi est plus proche de la réalité que la fin. Et la fin ne sera saisie parfaitement que par l'esprit, que par l'intelligence. Il n'y a de finalité propre que pour l'intelligence. Tandis qu'avant, c'est comme. C'est comme. C'est presque métaphorique, hein, le os. Alors, je crois que c'est très important de bien saisir ce point de vue-là, de bien saisir que la matière se saisit à partir du fait qu'on est engendré. C'est le fait d'être engendré qui saisit le ex-ou. L'eidos se saisit au-delà du to ginestai. Ça saisit directement. Ainsi que le to pragmata, pragma, le paradigma, s'est saisi en dehors aussi. Le paradigme se saisit en dehors, comme l'eidos se saisit en dehors. Le principe, vous voyez que c'est déjà très différent, le principe se saisit en dehors du mouvement. Tandis que la fin se saisit à l'intérieur du mouvement. Le principe est en dehors. Et la fin se saisit comme quelque chose d'extrinsèque. Ce qui fera dire à la scolastique deux causes extrinsèques. Et vous voyez, hein, comme on est loin de la saisie immédiate quand on dit ça. On regarde déjà quelque chose d'un petit peu différent. C'est pour ça que c'est tellement important de revenir à ce texte pour saisir, à partir de l'expérience, l'analyse du diati. L'analyse du diati se fait de cette manière-là, d'une manière autre, la saisie de la matière, ex ou, d'une manière autre, la forme, le paradigme, d'une manière autre, le principe du mouvement, et d'une manière autre, le point de vue de la fin. Chaque fois, vous avez une autre manière d'aborder ce qui est vu, ce qui est engendré. Vous avez donc quatre manières d'aborder ce qui est vu. Et c'est évident que ces quatre manières d'aborder ce qui est vu fait qu'il y en a une seule qui est dans la véritable immanence. C'est la matière. En réalité, on devrait dire qu'il n'y a qu'une seule cause immanente, la matière. La forme, par elle-même, n'est pas immanente. La cause efficiente, par elle-même, est extrinsèque. Et la fin, c'est on tend vers quelque chose qui transcende. Mais le to ou eneka n'est pas ce qui transcende. C'est en vue d'eux. Vous voyez ? Donc, il faut bien voir le caractère propre de la saisie de ce diati, qui chaque fois est différent. Modalité différente. Oui ?
Il y a un emploi de façon diati à propos de la fin. Quand il prend l'exemple de la santé, il dit diati.
Voilà. Oui, oui. Donc, c'est le pour. C'est-à-dire qu'il n'emploie pas pour les autres. confirme la traduction du père Feuillet pour saint Jean. Le diati exprime plus la finalité. Enfin, le diati, c'est le pourquoi, hein, en traduction française. C'est pourquoi. Alors le pourquoi, en dernier lieu, c'est la fin. Donc c'est ici, le diati. Oui, c'est quand vous vous promenez, diati, pour votre santé. Alors, vous pouvez avoir un petit compagnon à côté, c'est très bien, mais c'est pour la santé. C'est pour la santé que je me promène. Je suis péripatéticien pour garder une santé du corps et de l'esprit. Et si vous ne vous promenez pas, vous n'avez pas de santé du corps et de l'esprit. Il faut se promener. Diati. Oui.
La fin est extrinsèque, mais comme elle est désirée et que
Oui, elle est immanente par le tout ou eneka. Le tout eneka, ce en vue de quoi, est présent dans le mouvement et montre la direction du mouvement. Et cette direction du mouvement me permet de dire le os totelos. Vous voyez, la nature et le mouvement naturel possèdent en lui-même sa propre finalité. La finalité de la nature n'est pas extrinsèque à la nature. Et c'est pour ça que c'est to ou eneka. Vous voyez, alors je crois que ça c'est très important pour comprendre le premier moment dans la connaissance d'une philosophie spéculative de la recherche du pourquoi. Et alors, vous avez bien compris ? Oui. Voilà donc, d'une part, en à peu près, combien de façons se disent les causes. Eh bien, d'autre part, il se produit aussi ceci, les causes étant ainsi dites de plusieurs façons, qu'existent d'une même réalité plusieurs causes, et cela non par accident. Ainsi, par exemple, sont causes de la statue et le statuaire et les reins. Ils ne le sont pas en tant qu'elle serait quelque chose d'autre, mais bien en tant qu'elle est statue. Mais ils ne le sont pas de la même manière. Mais l'un comme matière, l'autre comme ce d'où provient le mouvement. Certaines choses d'ailleurs, sont même cause l'une de l'autre. Ainsi, par exemple, le fait d'être fatigué est cause de la bonne constitution. Et celle-ci est cause du fait d'être fatigué. Mais non de la même manière. Mais, dans notre exemple, d'une part comme fin, et d'autre part comme commencement du mouvement. De plus, la même réalité est cause des contraires, car ce qui, présent, est cause de ceci, cela même, absent, nous en faisons parfois la cause responsable du contraire. Ainsi, par exemple, nous rendons l'absence du pilote cause responsable de la destruction du navire, dont la présence du pilote eût été cause du salut. C'est bien évident. Quand il y a un accident, c'est tout immédiat, exactement ça. Quand un sous-marin disparaît, détruit, d'où ça vient ? On cherche la cause.